Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, faut-il voter la réforme constitutionnelle ? Étant entendu que rien ne se passe jamais comme prévu, il serait imprudent aujourd'hui d'émettre le moindre pronostic sur le résultat du vote de la prochaine réforme constitutionnelle. Le suspense est d'autant plus important quant à son adoption ou son rejet que le contenu du texte est encore incertain. La version qui sera soumise aux parlementaires à partir de vendredi n'est peut-être pas définitive et on pourrait même ajouter du doute au doute en se demandant si véritablement le chef de l'État ira jusqu'au bout de son idée et réunira le Congrès. Or, tout semblait pourtant assez clair au début, à défaut d'être simple. Le 16 novembre, à Versailles, François Hollande expose aux parlementaires son intention de faire inscrire dans le marbre de la Constitution le recours à l'état d'urgence et la déchéance de nationalité pour les binationaux nés en France. Si le premier sujet, l'état d'urgence, semble faire l'objet d'un consensus suffisant pour passer l'épreuve du Congrès, ce n'est pas le cas de la déchéance de nationalité. Depuis fin décembre, le sujet empoisonne le débat politique. Alors faut-il voter la réforme constitutionnelle ? C'est notre sujet du jour. Et cette question, nous avons choisi de la poser ce soir à celles et ceux qui ont le pouvoir ou pas de voter cette réforme, à savoir des parlementaires, à commencer par vous, Brigitte Allain, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée Europe Écologie Les Verts de Dordogne. Vous avez voté la première prolongation de l'état d'urgence, mais vous avez annoncé que vous ne voteriez pas la réforme constitutionnelle. Vous aurez évidemment l'occasion de nous expliquer pourquoi. Votre opposition à cette réforme vous rapproche d'un sénateur, Claude Malhuret, bonsoir.
Bonsoir.
Sénateur Les Républicains, maire de Vichy, ancien secrétaire d'État chargé des droits de l'homme. C'était sous le gouvernement de Jacques Chirac, entre 86 et 88. Vous avez co-signé une tribune il y a quelques jours de cela dans le Figaro avec une vingtaine d'autres parlementaires de droite pour exprimer aussi votre opposition à cette réforme. Vous êtes donc deux contre. Il y a également, a priori, je dis bien a priori parce que les choses peuvent changer hein, d'un jour à l'autre, deux pour. Chantal Joanneau, bonsoir.
Bonsoir.
Sénatrice UDI, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Vous avez donc a priori prévu vous de voter la réforme, comme d'ailleurs apparemment la majorité des parlementaires issus de l'UDI.
Et du centre, oui.
Et puis notre quatrième invité, Christophe Carrège, bonsoir.
Bonsoir.
Député PS de Paris, vous y êtes membre du pôle des réformateurs qu'on pourrait opposer à celui des frondeurs, je cherchais le mot, pourtant voilà. Dieu sait qu'on en parle souvent. Vous dénonciez, vous, fin décembre, c'était sur France Info, un concours l'épine de l'indignation à gauche par rapport à cette réforme et notamment à la question de cette peine de déchéance de nationalité. Alors on va essayer de vous laisser les uns et les autres exposer les arguments qui font que vous allez voter pour ou contre cette réforme. Mais avant cela, moi j'aimerais que quelqu'un, si quelqu'un s'en sent capable autour de cette table, m'explique clairement ce qu'il va y avoir dans cette réforme constitutionnelle. Je me tourne peut-être vers vous, Christophe Carrège, parce qu'a priori c'est vous qui êtes le plus proche du pouvoir actuel. Est-ce qu'on peut expliquer clairement, déjà ceux qui nous écoutent, ce qu'il y a dans cette réforme ? Parce que, autant je le disais, ça semblait assez clair au début, autant avec le débat politique de ces dernières semaines, ça c'est devenu un petit peu confus.
Il y a deux articles qui seront inscrits dans la Constitution. Le premier sur l'état d'urgence, avec un texte court qui va fixer à la fois le champ de l'état d'urgence et aussi les conditions dans lesquelles il peut être prorogé. Un deuxième article qui va porter sur la déchéance de nationalité, qui n'a pas évolué plusieurs fois, qui a évolué une fois. Le texte, aujourd'hui, il est stabilisé. Il a été d'ailleurs adopté par la Commission des lois et qui explique qu'on pourra déchoir de nationalité des Français sans faire référence à la question de savoir s'ils sont binationaux ou pas.
Il est stabilisé, mais pas sur le site de l'Assemblée nationale, parce qu'on a encore, moi j'ai regardé encore juste avant l'émission, sur le site de l'Assemblée nationale, c'est toujours dans la réforme constitutionnelle la version qui avait été proposée fin décembre.
Là. Oui, mais donc là, le texte est déjà passé à la Commission des lois. La Commission des lois a voté l'amendement de la deuxième version.
Donc pour vous, Christophe Carrège, tout est clair. Claude Malhuret ?
Ben, je trouve que Christophe Carrège a beaucoup d'humour, parce que c'est évident, il suffit de lire les journaux ce matin, le texte change tous les jours, pas une fois, il change tous les jours. Chaque jour qui passe apporte une couche à la confusion et au ridicule, pour tout dire. Ce matin, on apprenait que le projet a encore été modifié. Alors Christophe Caresse joue sur les mots. Il y a le projet de la Constitution et puis il y a le projet de la loi qui va... Et les deux vont ensemble. Et de ce point de vue-là, rien n'est réglé aujourd'hui.
Voilà, parce qu'il y a un texte de réforme constitutionnelle et puis ensuite, il y a des lois d'application.
Alors, il est clair qu'il faut que les deux soient validés en même temps. C'est plus un projet de modification de la Constitution, c'est une motion de synthèse du PS, qui d'ailleurs n'arrive pas à se faire, parce que le PS est tellement divisé aujourd'hui qu'il n'y a aucune synthèse qui est possible, et par conséquent, le texte change tous les jours.
Donc, ça veut dire que comme sénateur, vous ne savez pas encore ce sur quoi vous serez appelé à vous prononcer.
Bien entendu, et ça, encore une fois, je vous dis, ça a changé ce matin.
La même incertitude, elle est de votre côté, Brigitte Allain, sur la nature et le contenu exact du texte qui vous sera soumis. Alors pour vous, députés, ça sera dès vendredi. Hein. Pour les sénateurs, ce sera au moins un mois plus tard.
Moi, avant de parler de l'évolution du texte, je voudrais qu'on revienne quand même à ce qui a amené ce débat et parler de ce qu'est la Constitution. Avant tout, c'est quand même important de situer. Ce qu'est notre Constitution, la Constitution, c'est la loi des lois. C'est un texte solennel, c'est un texte qui, par lequel la société déclare ses principes, ce qui la fonde, qui la rassemble et qui l'organise. C'est avant tout cela, la Constitution. Et la sagesse voudrait qu'on ne touche pas à la Constitution, précisément, quand le pays est fragilisé.
Oui, mais c'est pas le moment de vous nous amenez sur le débat de fond, et vous avez raison, Brigitte Allain, mais juste quand même sur la méthode et sur la clarté de l'offre qui vous est proposée aujourd'hui. Est-ce que ce mercredi, vous avez l'impression de savoir avec exactitude ce sur quoi vous allez débattre après-demain?
Alors qu'on soit clair, de toute façon, le texte, il évolue, c'est-à-dire que à un moment, on parlait de la déchéance de nationalité pour les binationaux, puis aujourd'hui, on fait en sorte que le texte ne parle plus des binationaux ou d'ailleurs de ceux qui ont plusieurs nationalités, parce qu'on parle des binationaux, mais on peut avoir trois nationalités. Donc, le texte est en train de changer, mais dans le fond, il vise les mêmes personnes.
Alors, je termine mon tour de table avec vous, Chantal Jouanneau.
Ça fait partie du travail parlementaire qu'un texte évolue. Donc, on a tout à fait l'habitude que les textes, une fois qu'ils arrivent au Sénat, soient pas exactement ce qu'ils étaient à l'origine quand le gouvernement les a déposés.
Donc, c'est plutôt un signe de bonne santé, finalement, ce qui se passe en ce moment.
Mais c'est un signe de bonne santé qu'il y ait du débat et qu'un texte évolue, que toutes les opinions soient prises en compte. C'est un signe de bonne santé que le gouvernement ne reste pas sur sa position, bloqué sur sa position initiale. Je trouve que c'est plutôt sain. Quant à réformer la Constitution, on est sur deux sujets où, de toute façon, il faut réformer la Constitution, que ce soit l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution, qui était une nécessité qu'on aurait peut-être dû faire avant de se trouver effectivement dans cette situation, ou pour la nationalité, puisque de toute façon, on ne peut pas toucher, enfin, le Conseil d'État a été assez clair sur ce sujet, on ne peut pas toucher à la déchéance de nationalité si on ne réforme pas la Constitution, enfin, pour l'évolution qui est proposée par le gouvernement.
Alors, Claude Malhuret, ici, des changements ou des aménagements dans la rédaction du texte, c'est peut-être aussi parce que ça montre l'importance qui est celle du Parlement dans le cas d'une réforme constitutionnelle qui doit voter donc aux 3/5. Ça montre bien qu'il faut essayer de faire un texte de consensus et quand on recherche le consensus, forcément c'est plus compliqué que quand on est soumis aux règles classiques du vote à l'Assemblée ou au Sénat.
Oui, cela dit, avant de répondre, je voudrais répondre à Chantal Jouanneau. Je ne suis pas du tout d'accord. Comme on le disait il y a un instant, il n'y avait pas besoin de toucher à la Constitution. Tout le monde est d'accord sur une chose, même le Premier ministre, c'est que la déchéance de nationalité ne sert à rien dans la lutte contre le terrorisme. Il est même allé jusqu'à dire ça ne sert à rien, c'est un symbole. Tout le monde est d'accord là-dessus. Par conséquent, je suis d'accord avec ma collègue députée, Vert, ça n'aurait pas grand importance si on se contentait de changer la loi. Il y a des tas de lois qu'on vote comme ça et qui ne changent pas grand-chose. Mais changer la Constitution, qui est notre texte sacré dans cette république laïque, dans une démocratie, pour y instaurer une mesure à l'inefficacité unanimement reconnue, c'est plus une posture, c'est une imposture. Changer la Constitution pour faire un coup de com', parce que pour moi c'est un coup de com', je trouve que c'est indigne d'un président de la République. Je continue. Je ne suis pas d'accord avec le fait que la déchéance de nationalité existe déjà dans la loi. Il suffisait de rajouter une phrase. Deuxièmement, en ce qui concerne l'état d'urgence, mais on se fout des Français.
Alors attendez, Claude Manduré, parce que si vous faites toutes les réponses en même temps, ça risque de pas être suffisamment clair. Alors, si vous voulez bien, on va, je vais arrêter avec mon idée de bonne santé démocratique ou pas du débat. On va aller tout de suite, justement, sur le fond du sujet, avec donc ces deux sujets très importants, déchéance de nationalité et constitutionnalisation de l'état d'urgence. Oui. On peut peut-être commencer, enfin, on a déjà un petit peu fait, mais sur la déchéance de nationalité. Pour quelle raison, vous, Christophe Caresche, vous avez choisi de voter cette déchéance de nationalité, en tout cas de la constitutionnaliser, puisque comme le rappelait Claude Malhuret, il n'y avait peut-être pas besoin de passer par la Constitution, c'est une possibilité qui est déjà offerte par la loi.
D'abord, il faut le rappeler le contexte dans lequel ces annonces ont été faites. Après une deuxième série d'attentats, un pays extrêmement choqué par ces attentats et par les modes opératoires. Et je crois que le président de la République, dans ce moment quand même très troublé, a recherché à la fois des solutions effectivement qui permettent de combattre effectivement le terrorisme, mais a aussi recherché la voie du rassemblement et de l'unité nationale.
Sur la déchéance, ce n'est pas forcément un objectif atteint, là.
À l'époque, si. Puisque lorsqu'il a consulté l'ensemble des formations politiques, cette question est venue dans la discussion et un certain nombre de formations politiques ont dit au président de la République que cette question était importante pour elle. Ça a été à partir de là que le président de la République a considéré que, même si c'était d'ailleurs une disposition qu'il avait lui-même combattue dans l'opposition, pour y revenir. Mais il a considéré qu'au nom de l'unité nationale, il fallait reprendre cette disposition qui permettait aux uns et aux autres de se retrouver dans cette révision constitutionnelle. Et honnêtement, le discours du président de la République, il a été sur ce plan-là plutôt bien reçu. Je n'ai pas entendu à ce moment-là les protestations qu'on a entendues bien après.
Mais quelle force ça lui donne cette disposition de se retrouver dans la Constitution ?
Eh bien, alors attendez, ça c'est notre sujet.
C'est vraiment
je
sujet.
Vote.
Oui.
Non, attendez,
c'est bien
attendez,
le sujet.
Ça c'est très simple. C'est l'avis du Conseil d'État. Donc vous, le président de la République, lorsqu'il annonce la déchéance de nationalité, il ne dit pas qu'il va le mettre dans la Constitution. Il dit, je vais demander l'avis, le gouvernement le fait, au Conseil d'État. L'avis du Conseil d'État, il est extrêmement clair. Il dit qu'il considère que la déchéance de nationalité, doit, si on veut l'élargir, doit, puisque c'est vrai qu'elle fait partie de notre droit, doit figurer dans la Constitution. Alors, à partir de là, moi, je veux bien qu'il y ait un débat entre juristes, etc., tout ça est tout à fait louable. Mais si le président de la République n'avait pas suivi l'avis du Conseil d'État, la polémique qu'on aurait aujourd'hui, c'est vous prenez le risque d'une censure constitutionnelle si vous faites une loi, et ça veut dire que vous ne voulez pas de la déchéance de nationalité, etc., etc. Donc je crois que le président de la République et le Premier ministre ont eu raison de suivre l'avis du Conseil d'État, et l'avis du Conseil d'État dit il faut que ce soit dans la Constitution.
Le gouvernement n'avait pas d'autre choix finalement que d'inscrire cette déchéance de nationalité dans la Constitution, Chantal Joanneau ?
Le choix d'origine, et c'est là en fait ce qui nous sépare sur la modification ou non, la révision ou non de la Constitution, est de savoir si cette déchéance de nationalité, qui existait effectivement dans le Code civil pour les binationaux qui ont acquis la nationalité à leur majorité, devait être étendue ou pas aux binationaux qui sont nés sur le territoire français, voire à d'autres. Et donc, si on l'étend effectivement aux binationaux nés sur le territoire français, voire à tous les Français, il faut modifier la Constitution, c'est ce que dit le Conseil d'État. Donc, c'est d'abord sur le choix en opportunité. Sur la déchéance de nationalité, on est d'accord, c'est pas ça qui va résoudre la question du terrorisme. Ça, c'est clair. C'est pas une mesure qui est directement et immédiatement opérationnelle au point de faire fuir les terroristes, ou en tout cas les empêcher d'agir. C'est ce que dit le Conseil d'État aussi dans son avis, d'ailleurs. Par contre, c'est une mesure qui, quand même, rappelle quels sont les fondements de la nationalité en France, et que c'est une adhésion à un pacte de valeurs, et que si on a cette nationalité, c'est qu'on adhère aux valeurs de la France. Fondamentalement, c'est ça. Je trouve que c'est assez sain dans le débat démocratique que la question soit posée plutôt en ces termes que ça va permettre de lutter contre le terrorisme. En soi, non, soyons clairs.
Donc c'est on pas est dans le symbole, mais les symboles sont aussi importants.
Je doute que mais les symboles sont importants. J'ai déjà eu à m'exprimer en disant que je pense que des mesures plus radicales, par exemple de réelle perpétuité, auraient beaucoup plus d'efficacité. Mais c'est très sain que le débat politique porte sur qu'est-ce que la nationalité aujourd'hui en France et cette adhésion à un pacte de valeurs.
Brigitte Allain, est-ce que vous, c'est la déchéance de nationalité en tant que telle qui vous pose problème ou c'est le fait de l'avoir inscrite dans la Constitution ?
Ou les deux ? C'est les deux. D'abord parce que effectivement, un kamikaze, il n'en a rien à fiche de la nationalité, donc ça ne règle rien par rapport au problème du terrorisme. Or, ce débat que nous avons depuis deux mois, c'est soi-disant pour lutter contre le terrorisme, y compris symboliquement. Je trouve que c'est extrêmement grave de finalement cibler, on est en train d'instituer deux catégories de Français. C'est ça qui est grave dans cette affaire-là.
Et mais ça existe déjà, puisque l'article 25 du Code civil prévoit déjà, pour certains binationaux, une possibilité de les choix de leur nationalité.
Donc, à partir du moment...
Est-ce que ça veut dire que vous, par exemple, au sein de votre groupe Europe Écologie Les Verts, vous seriez favorable à ce que l'on supprime même cette disposition-là ?
Non, je crois que de toute façon, clairement, il s'agit de ne pas toucher à la Constitution au moment où on a besoin, au contraire, d'avoir un message d'unité nationale. Et là, je trouve que c'est l'inverse. On est en train de diviser les Français, et de diviser les Français de manière très malsaine. Très malsaine parce qu'on met une catégorie de Français qui serait a priori plus dangereux que les autres. C'est ça qui m'inquiète, puisque c'est quelque chose de symbolique pour lutter contre le terrorisme. Donc ça veut dire qu'on est en train de se dire que les Français qui ont plusieurs nationalités seraient plus dangereux que les autres.
C'est quand même grave.
Sauf
que si j'ai bien compris la nouvelle formulation de la loi d'application, la mention à des binationaux ne sera plus faite. Enfin, en tout cas, la possibilité de créer des apatrides. Donc ça ne créerait pas deux catégories de Français, mais ça concernerait tous les Français. Brigitte Allain.
De deux choses l'une, ou ça le change ou pas, mais enfin créer des apatrides. Alors on fait quoi de ces apatrides ? Ils habitent où ? Ils deviennent quoi ? Quelle est la loi finalement qu'on va imposer à ces apatrides ? Un apatride, finalement, il ne se réfère plus à aucune constitution. Alors là, c'est encore plus grave, il va falloir trouver une île, ou je ne sais pas où on va les mettre, les apatrides.
Claude Malhuret.
C'est un mensonge, c'est une arnaque. Bien entendu que ça concerne toujours que les binationaux. Bien entendu que la France, dans son préambule de la Constitution, à l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit « Nul ne peut être privé de sa nationalité. Tout individu, pardon, a droit à une nationalité. » Et par conséquent, on va bien se retrouver, puisque c'est le juge désormais qui va en décider, bien entendu qu'un juge avec un Français qui n'aura qu'une nationalité, que la nationalité française, ne va pas le condamné à la déchéance de nationalité. Donc il y a bien, comme on vient de le dire à l'instant, deux catégories de Français. Qu'est-ce que c'est ? Je disais tout à l'heure, tout le monde est d'accord sur le fait que ça ne servira à rien pour lutter contre le terrorisme. Donc le Premier ministre, lui, c'est un symbole. Ok. Beau symbole. C'est le symbole qui a deux sortes de Français. Il faut les appeler par leur nom, parce qu'il faut bien dire ce qu'il y a derrière les arrière-pensées. Il y a d'un côté les Français de souche, et de l'autre côté, les binationaux, c'est-à-dire à 80% des Français musulmans, immigrés ou enfants d'immigrés. À 80%.
Beaucoup sont portugais, hein, les gens qui ont la
nationalité. Oui, mais immigrés éventuellement.
C'est la majorité en France.
Oui, mais je dis, Donc, 80% de... Voilà.
De ceux qui sont visés, peut-être.
On voit bien, de ce point de vue-là, c'est clair. Il y a, d'une part, il y a des Français de naissance qui disposent d'une autre nationalité par ailleurs et qui devront mériter leur nationalité. Et de l'autre côté, il y a d'autres qui l'ont eu en cadeau à la naissance et qui n'ont que cette nationalité et qui n'ont rien à prouver et qui ne pourront pas la perdre parce que les juges ne feront pas d'apatride. Donc c'est une façon d'avancer, de trouver le moyen de faire accepter la chose, mais c'est un mensonge et c'est le symbole, c'est qu'on, ça n'est pas l'union des Français, c'est le contraire de ce qu'on appelle l'unité, c'est la division des Français en deux catégories.
Bon alors vous, Chantal Joannot, Christophe Carrèche, qui êtes favorable à cette mesure, comment est-ce que vous y répondez ? On crée, oui ou non, deux catégories de Français ?
Dire cela, c'est un peu une imposture. Parce que les binationaux, a priori, ne sont pas tous concernés par cette mesure. Cette mesure, elle va concerner les personnes qui commettent des actes de terrorisme. Alors, je veux bien qu'à partir d'une réforme de la procédure pénale, du code pénal, on débouche sur une réforme, sur une question concernant la nationalité, et c'est pas du tout cela. L'objet de ce texte, c'est pas de créer des catégories de Français différents, d'entériner des différences, c'est de sanctionner des gens qui ont posé des actes tout à fait condamnables et qui se sont mis, comme l'a dit très bien Chantal Joanneau, en dehors de la communauté nationale. Sur ce plan-là, ce n'est pas rien que de dire cela. Expliquer que cet acte, que cette sanction ne sert à rien, c'est ne pas comprendre qu'elle a une signification d'abord pour les Français. Le fait de dire que d'aller assassiner des Français comme cela dans une salle de spectacle ou dans la rue, le fait de mettre en cause effectivement ce qui est fondamentalement notre pacte national, se traduit par une mise à l'écart de la communauté nationale, ce n'est pas rien, c'est quelque chose d'important.
Donc un Français qui n'a que la nationalité française et qui commet des actes terroristes pourra ou pas être déchu de sa nationalité? Parce que finalement, là aussi, on ne sait plus bien si c'est
possible. Je reviens d'abord sur la rupture d'égalité. La rupture d'égalité, elle n'existe pas en droit. Le principe d'égalité ne s'oppose absolument pas. D'ailleurs, c'est une jurisprudence du Conseil constitutionnel constante. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'on traite différemment des situations différentes. Et c'est d'ailleurs pour cela que la loi actuelle sur la déchéance de nationalité est conforme à la Constitution, puisque elle ne prévoit que la déchéance de nationalité pour ceux qui ont acquis la nationalité, donc qui sont des naturalisés. Et je vous signale au passage que depuis 2012, ce gouvernement a prononcé 6 déchéances de nationalité au titre du terrorisme pour des Français qui ont été naturalisés. Donc aujourd'hui, dans le droit français, cette possibilité existe.
Oui, mais pour ceux qui n'ont que la nationalité française, vous n'avez pas répondu à la question.
Elle est parfaitement conforme à la Constitution. Bon, ça c'est le premier point. Okay. Deuxième point, c'est vrai que déchoir de sa nationalité des Français qui n'ont pas d'autre nationalité, ça pose un problème. Et ce problème, il est simple, il est celui de l'apatridie, on en a parlé. Moi, je considère que multiplier les cas d'apatridie, c'est quand même pas une solution. Et donc, je pense qu'effectivement, et j'assume totalement, le fait qu'elle s'appliquera, en tous les cas, pour l'essentiel, à des Français qui ont une autre nationalité. Mais il y aura, pour les Français qui n'ont pas d'autre nationalité, une déchéance des droits liés à la nationalité. Je le dis au passage.
Cette mesure de déchéance, pour vous, Chantal Joanneau, elle doit pouvoir s'appliquer à tous les Français ou bien seulement à ceux qui sont binationaux, parce qu'on ne veut pas créer d'apatrides?
Non, au sein de l'UDI, on est très attaché, et notamment le Parti radical est très attaché à ce qu'il n'y ait pas de distinction entre les Français. Voilà, il n'y a pas de prime parce qu'on serait français ou non d'origine ou non, peu importe. Donc, ce qui renvoie effectivement à votre second sujet sur la patrie, ce qui veut dire que pour nous, la déchéance de nationalité, elle doit s'appliquer à tous. Ce qui suppose qu'en parallèle, on ratifie enfin la Convention des Nations Unies de 61 qui porte sur ce sujet, mais qui n'exclut pas les cas d'apatridie, qui les prévoit même, qui permet de priver de nationalité un individu, dès lors qu'il a eu, je cite la Convention, un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l'État. Alors évidemment, ça doit rester des cas absolument exceptionnels.
Qu'est-ce puisque qu'on fait des apatrides, alors
Il y en a eu par le passé, des apatrides. Il y en a eu par le passé. Et c'est parce qu'il y a eu des excès qu'on est revenu sur cette position. Mais dans ces cas, pour nous, il est clair qu'on ne peut pas faire de distinction entre les uns et les autres.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Faut-il voter la réforme constitutionnelle? Nous en discutons avec la sénatrice UDI Chantal Joanneau, le sénateur Les Républicains Claude Maluret et les députés Brigitte Allain et Christophe Caresche. Brigitte Allain pour Europe Écologie Les Verts et Christophe Caresche pour le Parti Socialiste. Alors nous avons parlé de ce qui constituera, voilà, c'est un petit peu compliqué, l'article 2 de cette réforme. L'article 1 paraît peut-être un peu plus simple à évoquer, encore que. Il s'agit donc de constitutionnaliser l'état d'urgence. Sachant que finalement, là aussi, on est peut-être face à une même problématique, c'est-à-dire que l'état d'urgence, il est déjà permis dans la loi. La preuve, en tant que parlementaire, vous avez eu l'occasion de le voter. Est-ce qu'il y a nécessité de le constitutionnaliser, Brigitte Allain?
Alors, il y aurait eu nécessité de constitutionnaliser si on changeait un certain nombre de choses qui sont importantes. Par exemple, on s'est référé, quand on a voté récemment, donc après les 12 jours, la prolongation de l'état d'urgence, on a amené par voie d'amendement le fait, par exemple, la liberté de la presse, qui n'était pas prévue. Donc si, dans la Constitution, ces changements étaient prévus, ça serait intéressant. Or, de fait, actuellement, ce qui est prévu en le rentrant dans la Constitution, donc parfaitement inutile, hein, puisque aujourd'hui on a pu voter l'état d'urgence, on peut le prolonger sur une durée déterminée. Là, il n'y a pas de durée limitée prévue. Donc, il n'est pas prévu non plus le contrôle parlementaire que nous avons apporté par la loi. Le judiciaire, donc la présence du juge judiciaire est exclue. Il ne fixe pas donc de durée maxi. En fait, là aussi, pourquoi intégrer dans la Constitution, qui, je le rappelle, est avant tout les règles de vivre ensemble et de ce qui nous réunit.
Donc, si je comprends bien, Brigitte Allain, de votre côté, il n'y a pas forcément une opposition de principe à voir l'état d'urgence dans la Constitution, parce que finalement, il y a bien aussi le fameux article 16, par exemple, qui donne les pouvoirs spéciaux au président. Enfin, on peut dire qu'il y a aussi des dispositifs qui pourraient être jugés un petit peu dangereux du point de vue des libertés. Mais en tout cas, ce n'est pas suffisamment complet pour que vous soyez amené à voter oui, mais peut-être que le débat parlementaire
permettra
de... Pour
moi, c'est une opposition claire aussi à l'intégration de l'état d'urgence dans la Constitution.
Chantal Joanneau, vous, votre point de vue ?
Non, nous, notre point de vue, c'est que l'inscription dans la Constitution, elle vise justement et au contraire à renforcer les pouvoirs des Français, les garde-fous et les contre-pouvoirs. Il y a eu quand même des amendements qui ont été adoptés, justement, qui prévoient un contrôle du Parlement, ce qui est une très bonne chose, puisqu'à l'origine, ça n'était pas prévu, et ça a été adopté. Alors, il y a le sujet de la durée, qui n'est pas réglé. Nous, on est favorable à ce que la durée soit limitée et que ça puisse pas excéder 4 mois et que ce soit systématiquement soumis au Parlement. Donc, ça, c'est un point qui n'est pas totalement réglé, sauf erreur de ma part. Mais par contre, les contre-pouvoirs sont réglés. Ça, c'est extrêmement important qu'il y ait un contrôle du Parlement sur l'exercice de l'état d'urgence.
Donc finalement, c'est plutôt rassurant de voir l'état d'urgence dans la Constitution plutôt que de le laisser dans la loi ordinaire.
Compte tenu, sauf si on considère que l'état d'urgence, que les mesures qui peuvent être prises dans le cadre de l'état d'urgence ne sont pas graves et que finalement, ça ne change pas grand-chose. Mais aujourd'hui, il y a quand même des mesures assez importantes qui peuvent être prises dans le cadre de l'état d'urgence. Donc le fait que ce soit dans la Constitution et donc mieux encadré, c'est une vraie garantie.
C'est d'ailleurs l'argument qui est notamment celui de François Hollande et du gouvernement, que de dire, voilà, on aura un meilleur encadrement si on met l'état d'urgence dans la Constitution, Claude Naluré.
Enfin, moi, je ne vois pas de meilleur encadrement, mais surtout, je trouve ça surréaliste. On nous dit, pour pouvoir permettre l'application de l'état d'urgence, etc., il faut changer la Constitution. Alors que nous sommes en plein état d'urgence, que la Constitution actuelle a permis à De Gaulle de régler, et à la France, dans des conditions infiniment plus graves, de régler la guerre d'Algérie et beaucoup d'autres aspects de notre histoire. Aujourd'hui, dans la Constitution actuelle, avec l'accord du Conseil constitutionnel, qui a été interrogé 2 fois là-dessus, et notamment récemment sur les assignations à résidents, avec l'accord du Conseil constitutionnel, nous avons voté l'état d'urgence à la quasi-unanimité. Nous allons probablement le revoter, puisqu'il va être proposé, à une grande majorité. Et par conséquent, Chantal Joanneau dit qu'il faut instaurer les contrôles. Il y a aujourd'hui une commission de contrôle de l'état d'urgence à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et on nous dit il faut changer la Constitution. Si la mais tout est là-dedans. Et alors ?
Et alors ? Et
alors ? Et alors ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça changera si la aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes en pleine situation d'état d'urgence. Tout s'administre de façon parfaitement normale. Personne ne conteste ça. Et on nous dit il faut changer. C'est une gadgetisation de la Constitution.
Mais est-ce que
la loi
que...
suffit.
Est-ce
et
que
depuis 55,
est-ce
elle
que ça n'est qu'une
toujours.
Gadgetisation ou est-ce que vous y voyez des risques supplémentaires?
Non, j'y vois. Je pense, j'y vois pas de risques supplémentaires.
Parce que pour certains juristes, c'est l'état d'urgence permanent.
Non, j'y vois pas de risques supplémentaires parce que je
ne pense qu'il n'y aura
pas des.
C'est le risque.
Mais bon, le problème, c'est Montesquieu disait les lois inutiles sont défavorables aux lois nécessaires. Les lois inutiles, et surtout quand il s'agit de la Constitution, c'est une instrumentalisation de la Constitution pour montrer qu'on fait des choses. Je pense que depuis, je vais vous dire mon sentiment profond, c'est que depuis 3 mois, depuis 2 mois, depuis les attentats, on ne discute que de ça. Que de la déchéance. Le Premier ministre, tous les ministres, les députés, les sénateurs, chacun des dizaines d'heures, au total, ça fait des milliers et des milliers d'heures. La presse, je n'en parle pas, nous sommes là ce soir, le meilleur exemple. On ne parle que de ça. C'est un leurre. Ce dont il faut parler aujourd'hui, c'est comme d'habitude en France. Il y a un problème, on fait des lois. On ne fait pas d'actes. Le problème aujourd'hui, c'est de s'interroger sur les dysfonctionnements graves qui ont permis, d'une part, le 7 janvier, mais c'était la première fois, et depuis le 7 janvier, qui ont permis, tous les jours, vous-même, vos confrères, font des enquêtes pour montrer la somme de dysfonctionnements des services de renseignement et de sécurité qui ont... Aujourd'hui, c'est ça l'urgence, c'est de faire des actes dans la réforme des services de renseignement, de sécurité, etc. Et à la place, on ne parle depuis 3 mois que de ça, que de mesures qui ne vont rien changer.
Alors, Christophe Caresch, sur cette... question de l'état d'urgence.
D'abord, je suis un peu surpris par l'intervention de M. Malhuret, qui est par ailleurs attaché aux libertés et aux droits de l'homme. La constitutionnalisation de l'état d'urgence est une vieille proposition, qui a été faite d'ailleurs dès le rapport Vedel dans les années 80.
Et puis on l'avait repris dans le comité Balladur en 2007.
Par le comité Balladur.
Ça n'avait pas été retenu en même temps.
Oui, oui, la preuve, bien sûr, mais ça avait été...
Ça fait 30 ans que tout le monde...
Ça avait été écrit noir sur blanc. Pourquoi ? Parce que laisser un régime d'exception uniquement inscrit dans la loi, c'est à un certain moment prendre le risque qu'une majorité puisse utiliser ce régime d'exception, l'élargir, par exemple, à des situations qui ne nécessitent pas nécessairement ce régime, de manière tout à fait abusive. Donc, en l'occurrence, la constitutionnalisation de l'état d'urgence, c'est plutôt une garantie pour que celui-ci soit encadré sur le plan juridique et que des majorités qui auraient recours à l'état d'urgence soient tenues de respecter un certain nombre de choses. C'est-à-dire quoi ? D'abord le périmètre, c'est-à-dire que dans la Constitution, on définit exactement quelles seront les situations qui nécessitent la possibilité de recourir à l'état d'urgence. Ça, c'est le premier point, c'est très important. Le deuxième point, ce qui est précisé dans la Constitution, c'est le fait que l'état d'urgence doit donner lieu au bout de 10 jours à un vote par la loi pour le proroger. Bon, c'est des points très importants. Aujourd'hui, on pourrait très bien avoir une majorité qui remette en cause cela, puisque ces critères ne sont aujourd'hui inscrits que dans la loi. Donc depuis très longtemps, les constitutionnalistes, les hommes de droit ou les femmes de droit se sont posé la question de savoir s'il fallait constitutionnaliser ou pas. Donc je pense que ce n'est pas un petit sujet, je pense que c'est un sujet important qui va plutôt dans le sens de donner des garanties en termes de liberté. Alors on peut toujours considérer qu'il n'y a pas assez de choses dans la Constitution, simplement la Constitution qui n'est pas seulement un texte pour le vivre ensemble, qui est aussi un texte juridique qui permet effectivement d'assurer la conformité de notre législation par rapport à des principes fondamentaux, eh bien, il me semble qu'on est parfaitement dans cet esprit-là.
Brigitte Allain, est-ce que la façon, parce que c'est peut-être aussi une manière de réfléchir à la question, est-ce que la façon dont est appliqué depuis la mi-novembre l'état d'urgence en France vous conduit plutôt à être peut-être rassurant en se disant, alors manifestement c'est pas le cas puisque vous n'allez pas le voter, mais ou à plutôt être inquiète en disant, attention, là ce qu'on observe aujourd'hui, ça nous incite plutôt à ne pas vouloir avoir l'état d'urgence dans la Constitution. Puisqu'il y a un certain nombre, alors je ne sais pas si c'est le cas d'Europe Écologie Les Verts, mais il me semble avoir vu passer quelques communiqués, mais il y a pas mal d'associations, notamment Amnesty International, mais aussi des organisations comme le Conseil de l'Europe, qui aujourd'hui disent, attention, l'état d'urgence tel qu'il est appliqué aujourd'hui, il se traduit par un certain nombre de dérives qui sont attentatoires aux libertés.
Alors, je siège au Conseil de l'Europe, hein, et la semaine dernière, il y a eu un débat au Conseil de l'Europe concernant la question de l'état d'urgence en France. Et donc, les inquiétudes sont nombreuses par rapport au fait de de rentrer l'état d'urgence dans la Constitution. Donc c'est pas une vue de l'esprit juste des écologistes, c'est effectivement le fait, la façon d'appliquer l'état d'urgence, qui est une réelle privation des libertés, hein, très clairement. Pendant la COP21, des manifestations ont été interdites au nom de l'état d'urgence. Et ça, c'est extrêmement grave parce qu'en fait, on a interdit des manifestations et aussi l'expression de citoyens à un moment important de la conférence internationale sur le climat qui, à mon avis, pour la sécurité des uns et des autres, je parle de la sécurité humaine, sur l'humanité, aura des conséquences extrêmement importantes. Et c'est quand même dommage d'avoir empêché la société civile donc de pouvoir s'exprimer et d'exprimer aussi, à travers des manifestations, des désaccords.
Et donc vous craignez qu'à travers une constitutionnalisation, cette possibilité-là de réprimer, des acteurs qui ne sont pas directement liés avec des questions de terrorisme, puisse se multiplier?
Il y a cet aspect-là, et puis il y a quand même le fait que les forces de police deviennent supérieures aux forces judiciaires, quand même, dans l'état d'urgence. Et ça doit être des mesures très exceptionnelles. En Norvège, quand il y a eu les attentats à Oslo, il n'y a pas eu d'état d'urgence. Et pour autant, le pays n'était pas insensible à ce qui s'était passé.
Ça veut dire que vous, Brigitte Allain, juste d'un mot, vous n'allez pas voter la prolongation de l'état d'urgence puisque c'est ce qui va vous être soumis dans les prochains jours?
Non, je ne vais pas le voter parce qu'effectivement, on se rend compte que de fait, on peut agir sans l'état d'urgence et que l'état d'urgence a permis un certain nombre de dérives, en particulier dans mon département.
Sur ces questions de dérives rendues possibles par une constitutionnalisation, en tout cas qu'on constaterait aujourd'hui, Chantal Jouanneau, il y a un travail des parlementaires, effectivement, il y a des commissions et au Sénat et à l'Assemblée nationale.
Il y a un travail des parlementaires qui fera justement toute la lumière. Il y a en fait là une opposition sur l'état d'urgence entre Mme Allain qui est contre le principe même et M. Malhuret qui dit que ce n'est pas nécessaire de l'inscrire dans la Constitution. Nous, on n'est pas contre le principe et on pense qu'il faut l'inscrire parce que justement, ça donnera des garde-fous. J'évoquais la question de la durée, justement, pour les renouvellements. Et puis, surtout, sur le fait qu'on ne puisse pas dissoudre l'Assemblée nationale pendant l'état d'urgence, ce qui est une garantie qui sera amenée par l'inscription dans la Constitution. En tout cas, c'est quelque chose que nous proposons. Non, on ne peut pas être opposé à l'état d'urgence, justement, quand il se justifie. Vous évoquiez la question de ces manifestations. Je suis très COP21, comme vous le savez. Mais en l'occurrence, on ne pouvait pas assurer la sécurité de tout le monde. S'il y avait eu le moindre drame à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on nous aurait opposé? Donc, c'est un autre sujet. Par contre, il y a un point que je partage avec M. Malhuret, c'est qu'on est aujourd'hui totalement focalisé sur cette réforme-là, alors qu'il y a bien d'autres sujets qu'il faut débattre aujourd'hui de manière totalement complémentaire et transversale, sur notre politique étrangère, sur les mesures de fond que nous prenons dans le domaine de l'éducation, sur comment, effectivement, on défend avec beaucoup plus de vigueur les questions d'égalité dans notre pays. Oui, il y a bien d'autres sujets de fond qu'on peut traiter.
Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple, finalement, Christophe Carrège, de se passer de cette réforme constitutionnelle et d'essayer d'aménager la loi s'il y avait besoin, mais de se passer de ce très long épisode politique qui n'est pas encore terminé, loin de là?
Écoutez, encore une fois, lorsque le président de la République a prononcé son discours au Congrès, j'ai constaté plutôt une forme d'adhésion à ce qui avait été dit, au processus qui avait été enclenché, et même, je pense, une certaine satisfaction des Français de voir que la classe politique, les responsables politiques étaient capables de créer les conditions d'unité nationale dans un contexte extrêmement difficile.
Peut-être aussi parce que tout le monde était sous choc, y compris les parlementaires,
Peut-être, mais en tous les cas...
Mais c'est pas la meilleure façon de réfléchir.
Si le président de la République était venu au Congrès en disant, écoutez, moi, j'ai rien à vous proposer, vous savez, il s'est pas passé grand-chose. Bon, voilà, donc il a cherché, encore une fois, dans ce moment, à trouver des réponses réponses, et il y a des réponses aussi tout à fait concrètes, puisqu'il y aura une loi aussi sur les questions de sécurité. Et Monsieur Malhuret, si vous voulez créer, vous êtes majoritaire au Sénat, si vous voulez créer une commission d'enquête sur les forces de sécurité et la manière dont elles ont traité le terrorisme, vous pouvez le faire.
Mais
le Sénat a parfaitement le droit de le faire.
Mais elle vient d'être créée.
Ah bah alors,
elle vient d'être créée à l'Assemblée. Bah c'est très bien. À l'Assemblée. Donc c'est très bien.
C'est très bien.
Mais c'est
donc
très
vous
bien.
Voyez que ce travail se fait aussi.
Mais c'est nous qui l'avons demandé.
N'opposez pas. Eh bien oui, c'est normal, c'est l'opposition. Il n'y a pas de sujet là-dessus, il n'y a pas de.
Aux États-Unis, c'est la majorité qui l'a. Après
oui, mais enfin, après bon, vous l'avez demandé, vous l'obtenez, c'est très bien. Donc on peut aussi avancer sur l'ensemble des questions. Il n'y a pas à opposer les uns aux autres.
Écoutez, j'espère en tout cas que ce soir, on aura fait avancer un petit peu la réflexion et que ça aura permis à celles et ceux qui nous écoutent de se faire une idée peut-être un petit peu plus précise des débats en cours. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Chantal Joanneau, Claude Malhuret, Brigitte Allain et Christophe Caresche. Émission que vous pouvez réécouter indéfiniment sur notre site. Ben voilà, c'est peut-être dans 10 ans, ça sera intéressant de vous réentendre. Vous pouvez également podcaster l'émission ou nous suivre sur le fil Twitter. Un grand merci à l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Céline Leclerc, Hugo Florent. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Edouard Rubinstein. Demain, l'émission sera présentée par Mélanie Chalandon avec la question suivante. Sommes-nous inégaux face au cancer? C'est la journée mondiale de lutte contre le cancer.